Le rendez-vous avec Singapour en France, le festival. Venez découvrir la culture et les arts de Singapour à travers plus de 70 événements. Retrouvez toute la programmation sur singapour-lefestival.com.
Et tout de suite, le rendez-vous.
Le rendez-vous.
Radio Libertaire.
France Culture.
La voix 100 mètres.
Ni Dieu, ni maître.
Calme-toi, Télémaque.
Il semble retourner à la base des dieux.
À la base des dieux ?
À qui se fier ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture? Il sera question de Charlie Hebdo, de Pierre Bonnard, de Paul Éluard, de Denise Glaser, de Marceline Loridan et même d'Ulysse 31. Avec Johan Sfar qui publie ses nouveaux carnets, Si Dieu existe, au programme Charlie Hebdo, Le Rire, les femmes, Charles de Gaulle et la place de la BD dans l'histoire de France, Benoît Lagane.
Et après son journal de merde, Johan Sfar, dans ses carnets, tente d'expliquer dans une France qui doute que Dieu est une idée et essaye en vain de sortir d'une lecture religieuse du monde.
19h30, place nette à Xavier Delaporte pour sa chronique Place de la Toile qu'il est en train de finir, non ?
Exactement.
Au programme ce soir ?
Les façons dont vous allez mourir.
Merci. 19h35, plateau raconteur d'histoire avec Didier Deninx qui signe Novellas et Caché dans la maison des fous. D'un côté, un recueil de ses nouvelles, de l'autre, un court roman sur la position de Paul Éluard pendant la guerre, Benoît.
L'occasion de revenir sur le parcours d'un écrivain qui ne cesse de s'intéresser à l'histoire et aux anormalités, ou comment rappeler dans son dernier roman qu'un asile de fous peut être un refuge aux poètes.
Sans oublier la session live du jeudi ce soir de l'Hello...
Ah, ça y est.
Ça vous fait rire, Zoé Sfez ?
J'adore, vous savez bien.
Complètement déchaîné
toujours
aujourd'hui.
Toujours bon public.
Merci, c'est fait pour vous. De l'électropop anglaise avec Ghost Culture, Elsa Béranger.
Oui, premier album éponyme pour un chanteur, producteur et musicien qui joue d'un équilibre entre sa voix susurrante et la rythmique des machines.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez qui n'attend que ça. On ouvre sur le son du jour.
Un Québécois de Haïti. C'est une espèce de rêve.
Comme je ne cesse de le dire, si je suis né en Haïti, je suis né écrivain au Québec.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour ?
Et il n'est pas du jour, il date d'avant-hier. J'arrive à le faire même quand c'est l'actu chaude. On y entend donc Jean d'Ormesson, l'un de nos plus éminents immortels, qui a remis son épée donc mardi à l'écrivain haïtien et canadien Daniel Laferrière, qui lui-même était reçu aujourd'hui à l'Académie française, au fauteuil numéro 2, celui de Montesquieu. Il a prononcé son premier discours en habit d'apparat. Ça vient de se terminer, c'est pour ça qu'on n'a pas pu l'entendre. François Hollande était présent dans son discours. Daniel Laferrière a évoqué le voodoo, Haïti, le Québec et évidemment les grandes figures de la négritude. Je cite, pour moi ce fut d'abord ce trio qui a inscrit la dignité nègre au fronton de Paris, le Martiniquais Aimé Césaire, le Guyanais Léon Gontran Damas et le Sénégalais Léopold Sédar Senghor. Ce dernier a occupé pendant 18 ans le fauteuil numéro 16. C'est lui qui nous a permis de passer 100 heures de la négritude à la francophonie. Chaque fois qu'un écrivain né ailleurs entre sous cette coupole, un simple effort d'imagination pourra nous faire voir le cortège d'ombres protectrices qui l'accompagne.
Merci Zoé, on passe tout de suite au dossier du jour. Aujourd'hui, le président directeur du musée du Louvre, Jean-Luc Martinez, a annoncé que son projet de transférer les réserves du Louvre dans la ville de Liévin, c'est dans le Nord-Pas-de-Calais, avançait bien puisque l'architecte qui réalisera ce grand projet sera désigné en juillet. Tout ça fonctionne bien, mais pourtant, le projet est extrêmement controversé.
Et d'ailleurs, c'est la première fois depuis de très longs mois que Jean-Luc Martinez accepte d'évoquer ce sujet. D'ailleurs, il l'a fait dans un journal du Nord, La Voix du Nord. Et alors, il n'a pas accepté de nous parler à nous. Il reste en tout cas indisponible pour des interviews plus larges sur le sujet. Sujet donc hautement politique, polémique et politique, puisque le Louvre doit, depuis des années, trouver un nouvel endroit pour ses très importantes réserves. Une mesure très urgente, puisque, vous le savez, Paris est sujet... Chaque siècle, depuis plusieurs siècles, chaque siècle a des crues décennales, la fameuse crue décennale. Et on a calculé qu'il faudrait 72 heures pour réagir à cette crue décennale. Or, il se trouve que la plupart des réserves du Louvre sont aujourd'hui en zone inondable. C'est donc une urgence pour les sauver de déménager. Tout le monde s'accorde à la nécessité de trouver un autre endroit. Mais quand le Louvre a annoncé en 2013 qu'il avait décidé de choisir la ville de Liévin pour transférer ses réserves, c'est la colère chez les conservateurs. 42 des 45 conservatoires du Louvre ont signé une lettre pour s'y opposer et une pétition a été envoyée au ministère de la Culture qui rassemble aujourd'hui plus de 2700 signatures de chercheurs et d'historiens comme Didier Rickner qui accusent le musée d'avoir d'une part tardé à s'attaquer au problème et surtout d'offrir une solution totalement inadéquate. Écoutez-le.
Bien sûr, c'est une vraie problématique. Il faut savoir quand même que ça fait 15 ans qu'on sait que ces réserves sont en zone inondable et rien n'avait été fait. La première chose à faire, c'est de les évacuer et de les mettre à l'abri. On a beau vouloir faire les réserves à Liévin, si demain il y a une inondation due à la Seine, les œuvres seront, une partie des œuvres ne seront pas évacuables et seront abîmées. Et ensuite, il faut réfléchir à un vrai projet. Et des vrais projets, il y en a. On ne fera pas croire à personne que la seule solution, c'est d'envoyer les œuvres du Louvre à 200 km. Ou une des idées qui est lancée, qui me paraît une bonne idée, c'est d'envoyer les réserves du Louvre au musée, à l'ancien musée des arts et des traditions populaires, qui se trouve dans le bois Boulogne. Il faut savoir que ce musée lui-même a été dépecé, le musée n'existe plus, mais le bâtiment existe toujours. Pour les amateurs d'architecture, c'est une architecture qui est considérée comme importante. Or, ce bâtiment est vide, rien n'empêcherait de le réhabiliter pour en faire les réserves du Louvre.
Les réserves d'un musée sont en effet primordiales dans le travail de la recherche.
Oui, parce que d'abord, il y a deux fonctions en fait, hein, dans les réserves. C'est d'abord de garder les œuvres pendant qu'elles sont prêtées, pendant qu'elles sont en transition, pendant même qu'on fait tourner les collections, puisque ça, c'est le gros argument aujourd'hui du président directeur du Louvre. C'est qu'en fait, selon les départements, on ne montre que 5 à 8% des collections qui sont possédées par le Louvre. Donc l'idée à Liévin, ce serait d'une part d'avoir des réserves, mais surtout des réserves visitables, dont le public pourrait profiter. C'est ce que font d'autres musées ailleurs. Mais ça sert aussi, et c'est vraiment très important, à stocker toute une série de pièces qui n'ont pas forcément un grand intérêt pour le public. C'est le cas notamment en archéologie, des séries entières, mais qui sont extrêmement importantes par les chercheurs. Il y a beaucoup de chercheurs étrangers qui ont signé cette pétition. Et pour Didier Rickner, choisir de déplacer ses réserves à Liévin, c'est complètement une ineptie.
Les réserves d'un musée, c'est un peu comme les cuisines pour un restaurant ou les coulisses pour un théâtre. On n'imagine pas d'éloigner les coulisses d'un théâtre de 200 km, c'est absurde, ça ne peut pas fonctionner. La pétition également est signée par beaucoup de chercheurs étrangers, notamment des archéologues, qui disent qu'ils viennent fréquemment à Paris pour travailler sur les collections du Louvre. Comment pourront-ils travailler entre Paris et Liévin, sachant qu'il y a des gens qui viennent de très loin? Ils ont besoin d'aller à la Bibliothèque nationale, d'aller dans les bibliothèques à Paris, de faire des recherches, et ensuite ils ont besoin d'aller voir des œuvres, ensuite ils ont besoin de retourner en bibliothèque. Ils ne peuvent pas faire des allers-retours incessants entre Liévin et Paris. Et le troisième danger, c'est le danger pour les œuvres, qui ne cesseront d'être trimballées entre Paris, Liévin et la destination où ils sont envoyés en exposition. Enfin, ça va occasionner beaucoup de risques pour les œuvres, beaucoup de coûts de fonctionnement, beaucoup de dépenses également d'énergie au sens énergie durable. Hein. Il faut absolument que ces réserves restent sur place. Donc je ne m'explique pas vraiment, en dehors d'une raison politique, je ne m'explique pas pourquoi le Louvre décide de faire cela.
Alors justement, à cet argument, Jean-Luc Martinez a répondu aujourd'hui dans son interview à La Voix du Nord, et bien que prendre le train de temps en temps pour venir travailler à Lens ou à Liévin une journée, ça ne changera rien aux habitudes des conservateurs ni à leurs prérogatives. Il a d'ailleurs, de toute façon, le directeur du Louvre, le soutien du ministère de la Culture, et donc il a annoncé que le nom du candidat qui sera choisi pour construire ce fameux bâtiment à Liévin, qui habitera ses réserves, sera désigné d'ici le début du mois de juillet.
Merci Zoé, on continue avec les brèves.
Et l'on ouvre avec une nouvelle qui peut-être en rassurera certains, puisqu'on en a parlé dans ce journal La Culture. La ville de Palmyre en Syrie serait, semble-t-il, intacte. L'État islamique a mis en ligne jeudi une dizaine d'images prises depuis le centre de cette ville antique et qui montrent, eh bien, qu'il n'y a pas eu de dégradation de la part des islamistes. Mercredi, le groupe avait exécuté une vingtaine d'hommes dans le théâtre antique, ce qui prouvait qu'il était en ce moment-là encore debout.
Le Conseil de Paris veut trouver une solution pour accueillir le musée arménien de France.
Le vœu qui a été donc voté aujourd'hui au Conseil de Paris, rédigé à l'initiative de l'UMP, demande à la mairie d'étudier avec la direction du musée la possibilité d'une mise à disposition temporaire pour la ville d'un espace vacant afin de permettre une exposition des collections d'ici 2015, puis trouver un endroit pour 2015, parce que je rappelle que le musée arménien de France, qui regroupe 1200 œuvres, est fermé au public depuis 1995 et que ses locaux situés à avenue Foch ont fait l'objet de travaux en 2011, mais ne l'ont pas été rendus.
La plus grande planche de BD au monde présentée aujourd'hui à Sarajevo.
Oui, elle a été imprimée sur une toile mesurant plus de 730 mètres carrés contre le dernier record qui était 630 mètres carrés pour celle d'Objectif Lune qui avait été affichée à Bruxelles. Cette planche est extraite d'une BD qui raconte l'enquête d'un journaliste égyptien pour retrouver le tombeau d'Alexandre le Grand. Elle est l'œuvre d'un scénariste français, Gilles Kramer, et elle est dessinée par l'artiste bosnien Damir Niksic.
La dernière,
c'est une histoire en fait pas très drôle qui montre que la réalité parfois dépasse la fiction.
J'adore cette phrase.
Vous aimez pas? Vous
si, j'aime bien parce qu'elle rime entre tradition et modernité aussi.
C'est beau, vous avez vu, je sais que vous aimez ce genre de poncif. Alors c'est l'histoire d'un film.
Généralement, si c'est un artiste, il est le plus brillant de sa génération.
Et vous entendez que je suis de loin la journaliste la plus brillante de ma génération. Je savais que vous pensiez ça. Alors je voulais vous parler de ce film dont vous avez beaucoup entendu parler, que certains d'entre vous ont peut-être vu, Mad Max The Fury.
Ouais, le film de de la maturité.
Le film de la maturité, bah oui, alors c'est le réalisateur George Miller qui donc continue sa série. Et donc, vous connaissez peut-être le pitch de cette histoire, on est dans un monde apocalyptique, où il n'y a plus rien eu, il y a eu une catastrophe écologique, c'est important.
Et même l'actrice a perdu ses cheveux.
Il y a très peu de pétrole, très peu d'eau et on est dans un désert très aride. Alors, ce film, il devait se tourner au tout début dans un désert australien, Broken Hill, en Nouvelle-Galles du Sud. Mais en fait, il y a eu un problème, il y a eu des inondations et donc finalement, le temps que le film se fasse, eh bien, il y avait eu de la pluie, donc il y avait eu des plantes qui avaient poussé, ce qui du coup n'allait plus du tout avec... l'affaire. Alors, que s'est-il passé? Les gens ont trouvé un autre désert. Ce désert, c'est le désert d'Orob National Park. C'est en Namibie. C'est un des déserts les plus arides et surtout les plus anciens du monde. Il y a un espace, donc un parc naturel protégé pour des espèces très rares. La zone est recouverte de lithops.
Rare à quel sens du terme?
Bah, rare au sens où vraiment c'est quasiment les derniers.
Oui, mais voilà, très peu en plus.
Et bah, écoutez, c'est ce que j'allais préciser. Il y a des mousses et du lichen indispensables à l'écosystème et qui sont extrêmement rares. Des plantes qui prennent une dizaine d'années à devenir adultes parce qu'elles n'ont pas grand chose à se mettre sous la dent quand même. Voilà. Or, que s'est-il passé? Les équipes du film n'ont pas hésité à retourner la terre, à faire des trous, à faire des explosions, à rouler à grande vitesse.
C'est Mad Max, ça. Un film de Romain.
Sur leur zone fragile et à recréer des explosions. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont complètement détruit ce désert. Alors du coup, les écologistes namibiens ont entrepris des démarches publiques envers les responsables, c'est-à-dire la commission du film en Namibie, qui continue à vendre donc ce désert pour les films d'action. Tout ça, c'est assez drôle, puisqu'au final, ce film dénonçait les drames écologiques.
Vous êtes bien retombé sur vos pieds.
Vous avez vu, c'était pas très élégant, mais au moins l'idée y était.
Non, c'était pas mal. Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos deux invités, Johan Sfar, Didier Deninx? Johan Sfar, quelque chose que vous voudriez commenter?
Le dernier Mad Max est un chef-d'œuvre et l'œuvre de George Miller, incluant Babe et Happy Feet, me passionne.
Ah oui? Pour quelle raison?
C'est un type très étrange. Vous savez qu'un des cascadeurs était mort sous les roues lors du deuxième Mad Max et sa famille a exigé que les images soient montées. Mais le film est extraordinaire, on dirait du John Ford, il n'y a pas une image où on s'ennuie, c'est pas parce qu'il n'y a pas de dialogue qu'il n'y a pas de scénario, il y a un scénario formidable, et c'est rare que les blockbusters soient faits par des amoureux de cinéma, et ça c'est un gars qui aime le cinéma.
Didier Deninx, quelque chose que vous voudriez commenter dans tout ce qu'on a évoqué?
Non, l'inondation c'était un thème récurrent.
Oui, c'est-à-dire qu'il y en a dans un désert, mais il n'y en a pas encore à Paris.
Amoureuse de l'eau, voilà.
Mais elle vous le rend bien.
Voilà,
c'est même pas ce que ça veut dire.
Ça veut rien dire du tout, donc je vais enchaîner sur la pluie. Vous pouvez écouter et podcaster ce journal.
Ce journal-là, précisément, vous êtes sûr que vraiment on va le podcaster pendant combien de jours?
Pendant 1000 jours.
19-20, le rendez-vous. C'est sur France Culture.
Plateau Ni Dieu, avec vous, Johan Sfar, écrivain, dessinateur, cinéaste multi-récompensé. Vous aviez signé il y a quelques semaines un album sur les modèles du peintre Pierre Bonnard. Et hier, c'était l'apparition de vos nouveaux carnets, Si Dieu existe, aux éditions Delcourt. Vous revenez sur les mois de janvier et février 2015, marqués par les attentats contre Charlie Hebdo. D'abord, une première chose, parce que les premiers carnets, c'était en 2002. Vous vous souvenez précisément de ce qui a déclenché l'idée de ces carnets à l'époque?
Très bien. Ma mère est morte avant que j'aie 4 ans. Elle était chanteuse, mon père était pianiste. La musique s'est arrêtée à ce moment dans ma famille. Et à l'âge de 30 ans, soi-disant pour rire, je me suis acheté un harmonica, ce qui a été mon premier instrument de musique. Donc à chaque crise dans mon existence, parfois des crises joyeuses, il y a eu la paternité, je me suis mis à faire 2 ou 3 carnets pour cautériser. Et dès que ça allait mieux, je repartais vers les fictions.
Et alors ça marche?
Ça marche très très bien.
Ça marche
très très bien parce que ça n'a rien à voir avec une psychanalyse. C'est une forme romanesque qui donne... un aspect pensé à ce qu'on vit au quotidien et qui ne rime à pas grand-chose.
Juste une question presque, on va dire, conceptuelle. Les carnets sont pré-publiés sur le site du Huffington Post. Vous aviez écrit un journal de merde, lui, sur le site de Télérama. Qu'est-ce qui différencie l'exercice du carnet de l'exercice du journal chez vous?
Pour moi, c'est la même chose. Là, je me sentais très seul, j'avais besoin de réaction, j'avais besoin de retour. J'ai pas été déçu, je me suis senti porté par mes lecteurs. Cette idée que l'amour qu'on attend du lectorat serait un amour fictif, je la regrette. Ou alors, oui, dans un lit, c'est aussi fictif ce qui se passe. Mais enfin, ce que je reçois des lecteurs, c'est bien réel et à titre personnel, ça me fait du bien.
Didier Deninx, vous qui êtes écrivain de tous bords, on va parler tout à l'heure de tout ce que vous avez produit. Est-ce que l'exercice du journal, c'est quelque chose que vous avez tenté?
Non, absolument pas. Non, le journal, il est masqué dans le travail que je fais sur les nouvelles, pas sur les romans, mais sur les nouvelles. Il y a énormément de choses que je puise comme ça dans ma vie, autour de moi, et je le retraduis à l'intérieur de mes Les nouvelles, c'est pratiquement des chroniques comme ça.
Comme une sorte de journal de bord, journal professionnel de bord.
Mais sous une forme totalement fictive.
Alors le titre de ces carnets, Si Dieu existe, un titre con, vous l'assumez, vous le dites dans l'ouvrage, un titre naïf qui doit quelque chose du statut de dessinateur après de tels événements. Le dessinateur a, je vous cite, le devoir de faire un dessin idiot, tel qu'un crayon contre une Kalachnikov, c'est ce qu'on voit. En quoi est-ce un devoir justement? Est-ce que vous commencez les carnets sur ça?
Il faut être sincère avec son dessin. Quand on est choqué, on fait le dessin d'une personne traumatisée, donc on tombe dans le symbole. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de dérouler la pelote de laine et de s'apercevoir qu'il y a des ressentis, il y a des vécus différents face à un drame. Mais commencer par le crayon et la Kalachnikov, c'est d'abord j'étais pas capable de faire autre chose. Ensuite, ce serait obscène d'être intelligent ce jour-là. Et ensuite, ça commence par on est tous pareils. Quand on me parle d'un esprit du 11 janvier, je suis un peu embêté parce que moi, j'ai juste vu une population qui a été traumatisée, qui a voulu se rassembler parce qu'on avait besoin de savoir ce qui se produisait. Et après, libre à chacun de raconter la suite.
Comment vous avez vécu justement ce rassemblement, vous, Didier Deninx? Comment vous l'avez regardé?
Moi, c'était un petit peu bizarre. J'étais sur une table d'opération. On allait m'opérer du cœur. Et le toubib s'est penché vers moi. Et puis il m'a dit, excusez-moi, monsieur Deninx, mais on va être obligé de reculer l'opération. Toute mon équipe voudrait faire la minute de silence pour Charlie. Et donc, j'ai fait une minute de silence avant que la minute soit prolongée de manière chimique pour moi seul.
Dans l'avant-propos, Johannes Farr, vous dénoncez, c'est assez intéressant, les dessins qui font dire « tu as vu son dessin, on a tout compris de l'actualité ». Parce que pour vous, tout résumé en un dessin, c'est moche. Un dessin qui résume, qui simplifie, qui donne le sentiment que l'on a compris de quoi il est question, c'est un dessin que je n'aime pas. En quoi vos carnets doivent-ils être compris comme l'anti-regard de Plantu ou l'œil de Willem? Parce que c'est un peu ça.
Parce que je suis dessinateur de bande dessinée et pas dessinateur de presse et j'ai besoin de développer un discours. Tout ce que je fais est romanesque. Quoi que je fasse, ça finit par avoir une forme, ça finit par raconter quelque chose. Le dessin de presse procède par coup de poing et c'est pas mon métier. J'admire beaucoup les dessinateurs de presse, mais c'est pas mon boulot. Ensuite, j'ai un problème personnel avec Plantu, avec le fait que certaines simplifications amènent parfois à ne pas réfléchir. Moi, je suis très embêté quand on met des brassards avec des croix gammées sur les gens parce que ça interdit de les regarder vraiment.
Didier Deninx, une réflexion?
Oui, moi j'ai presque appris à lire dans la bande dessinée, puis la caricature, donc j'ai connu beaucoup de dessinateurs de presse, et c'est vraiment très très juste ça, de rechercher une idée qui cogne, qui frappe, qui soit explicite au premier degré, et il y a véritablement ce danger de la simplification, et on le repère assez fréquemment.
Alors, dès les premières planches, vous évoquez Fred, un de vos maîtres, hein, entre autres le père de Philémon. Fred qui disait que lorsqu'un dessinateur n'y arrive plus, exceptionnellement, son personnage peut se dessiner tout seul. Et c'est ce que vous avez mis en scène, en ouverture de votre carnet. On voit le chat du rabbin en train de prendre la plume et de vous aider à dessiner lui-même. C'est très beau, hein, comme image d'ouverture. En quoi cet acte a pu vous redonner la force de dessiner sur et autour de cette tragédie?
C'est là le vrai problème de foi chez moi. C'est que j'ai besoin de continuer à croire en mes personnages. Au moment où on tue des dessinateurs, je me dis « merde, mon métier est en danger, alors là je sais pas quoi faire ». Mais quand je dessine les yeux d'un personnage, on dessine pas pour des raisons esthétiques, on dessine parce qu'on a besoin, George Steiner disait, de réelle présence, on a besoin d'un totem. Dès que je vois ses yeux, il me regarde et je dis « vas-y, qu'est-ce que tu fais ?» Et j'interroge ce visage. Donc pour moi la foi elle est là, c'est reprendre foi dans le récit qu'on va raconter parce qu'on se dit « peut-être quelqu'un va le recevoir, peut-être j'aurai l'idée de la case d'après ». Mais dans un moment de traumatisme, on n'a pas l'idée de la case d'après. Le à quoi bon, c'est très compliqué quand on fait ces métiers-là.
Il y a une autre piste qu'on découvre aussi, c'est ce qui s'est passé lors de la soirée hommage à Cabu au studio 105 de la Maison de la Radio, donc ici même. Vous dessinez certains personnages à la façon de Cabu et peut-être même à la façon de Tinius. Cabu, par exemple, c'est quand vous dessinez Fred Manoukian au piano. J'imagine que c'est un peu ça, c'est ça?
Ah, j'ai pas fait exprès.
C'est vrai?
J'ai pas fait exprès. Il y avait le frère de Cabu qui
ahurissant, d'accord.
J'ai pas fait exprès. Il y a le frère de Cabu qui jouait. Ils ont joué du Cab Calloway. Je pleurais de penser à Cabu. Et moi, je vois ces hommes prendre un instrument et faire du jazz. C'est tellement beau. J'ai pris mon crayon, j'ai fait un dessin. J'ai pas pensé à copier Cabu ou à dessiner comme lui. Mais maintenant que vous le dites, je crois que c'est possible. Peut-être qu'il y a eu une inspiration forte.
Quelque chose aussi m'a alerté, on apprend que vous aviez arrêté Charlie Hebdo le jour de Katrina aux États-Unis pour des raisons, vous le dites, romantiques et d'autoprotection. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous vouliez dire par là?
Oui, c'était trop. Je savais que j'étais pas dessinateur de presse, mais chaque semaine je livrais une petite chronique et je faisais ce que je pouvais pour parler du quotidien. Bon. Et un jour, il y a Katrina et je pense à ma Jérusalem, c'est la Nouvelle-Orléans. C'est la ville que j'aime le mieux au monde, j'aime tout. Et là, c'est trop. Je dis, là, en une chronique, je peux pas. Et je sais pas le dire, et je sais pas en parler, et j'ai pas envie d'en parler. Et je me suis dit, c'est l'occasion de s'en aller. Je suis parti à cette occasion.
Vous étiez lecteur, j'imagine, de Charlie Hebdo. Vous l'êtes toujours?
Oui, je le suis toujours. Moi, j'ai suivi depuis vraiment le départ. Et c'est, il y avait une proximité, moi, avec T-News. On a fait un livre ensemble, ouais. Qui s'appelait Corvée de bois et qui était justement sur la liberté d'expression, la torture, sur toutes ces choses. Donc, c'est quelque chose qui m'a foudroyé véritablement le souvenir de T-News. Puis j'avais croisé aussi Cabu, Volinsky, enfin toute cette équipe.
Alors à un moment donné, dans la narration, vous racontez que vous prenez un carnet que vous pensez vierge et finalement ce carnet n'est pas vierge. Et là, vous nous racontez une histoire passée, une dizaine d'années sans doute, une rencontre avec Mobius qui vous explique que ce sont les communistes et les catholiques français qui ont développé la BD à travers leur publication jeunesse afin de contrer l'américanisme des comics dans l'immédiate après-guerre. Je résume rapidement. Et c'est bizarre parce que ça fonctionne vraiment comme un aparté. Qu'est-ce que cela vous permet de dire de l'histoire de la bande dessinée à ce moment-là, alors même que vous parlez de Charlie et de l'histoire de Charlie en France?
Oui, c'est important de savoir d'où on vient. C'est important de savoir qu'on est toujours plombé d'un côté par l'idée que le dessinateur devrait en rester à s'occuper des enfants et rien faire d'autre. Et maintenant, on s'est trouvé projeté, malgré nous, les dessinateurs, au devant de la politique. Quand Luce dit « j'ai jamais demandé à être un héros, je suis là pour faire marrer tout le monde », il a tout à fait raison. Moi, les gens qui me comprennent le mieux en ce moment, ce sont les Algériens. C'est-à-dire des gens qui se souviennent de ce qu'a été le GIA, qui savent qu'on n'est pas face à un phénomène religieux, on est face à un phénomène politique et de tout ce qu'on veut. Et le but de ces attentats, c'est que les gens ne se parlent plus. Le but de ces attentats, c'est de mettre tous les Français de religion musulmane dans un coin et tous les autres dans la peur. Il faut créer des espaces pour parler de manière paisible. Je crois que Charlie était un espace pour ça. Malheureusement, ils ont été mal compris.
Alors, le carnet est aussi un espace politique. C'est assez étrange parce que, à un moment donné, il y a un concept que vous dessinez, c'est celui de la représentation de la France républicaine. Et cela passe par la représentation du général de Gaulle qui vient vous interpeller, qui vous dit des choses pas si bêtes, en somme. Vous êtes né sous Pompidou, vous. Qu'est-ce que de Gaulle représente pour que ce soit lui qui vous pousse à réfléchir sur l'idée de la France et sur votre propre statut?
Alors, j'ai été terrorisé il y a une semaine d'entendre notre ministre de l'Éducation dire que l'histoire ne devait pas être un roman national. Je vois pas bien ce que ça peut être d'autre, parce que quand on me fait appel à l'histoire objective, je pense à tous les morts du marxisme-léninisme, ça me fout la trouille. Moi, j'aime beaucoup l'idée d'être dans une France où des petits juifs, des petits noirs et des petits arabes vont dire nos ancêtres les Gaulois. Là-dessus, le général de Gaulle, ça me paraît très très bien. Comme je ne pouvais pas appeler Astérix, il a fallu de Gaulle.
Benoît.
Et il y a dans ces carnets aussi une partie datée du 19 janvier où vous tentez d'expliquer qu'en France, Dieu est une idée, grâce aux Grecs, à Spinoza, aux Lumières. Et là, très peu de dessins. C'était impossible de dessiner une idée.
Cette idée-là.
Oh, j'ai passé toute ma carrière à dessiner des dieux de toutes sortes.
Et là, à ce moment-là?
J'y ai juste pas pensé. Ça n'a pas été le sujet. Si vous êtes en train de me demander pourquoi j'ai pas dessiné les prophètes, moi, j'essaye de rire avec. Je veux préciser. Je suis foncièrement contre Plantu quand il dit qu'on doit faire attention à ce qu'on dessine. Chacun doit dessiner ce qui lui vient.
C'est exactement ce que vous écrivez d'ailleurs, sur l'autocensure de Plantu. Voilà.
Ça c'est très grave parce qu'en fait, on sait pas ce qu'on va dessiner une seconde avant. Moi, ce que je sais, c'est que je suis un juif qui a l'air arabe. J'ai grandi avec plein d'arabes à Nice et quand je fais un dessin, j'ai envie qu'ils comprennent, j'ai envie qu'ils se marrent, j'ai envie qu'on discute ensemble. Donc, je vais pas pratiquer le dessin d'offense parce que c'est pas ce que je fais, mais je suis ravi que d'autres puissent le faire.
Dans la dernière partie du carnet, on vous croise avec Marceline Loridan, qui est documentariste, cinéaste, rescapée d'Auschwitz-Birkenau. Vous dînez avec elle, vous la raccompagnez chez elle, et là, elle vous tient son discours, et je la cite puisque vous l'écrivez. « Moi, je veux rappeler que le mufti de Jérusalem était un allié actif d'Hitler, et après-guerre, plein d'anciens nazis sont allés aider à structurer les dictatures arabes. C'est ça aussi qu'on paye aujourd'hui, une survivance des réflexes nazis greffés sur des visions religieuses au service de dictatures paternalistes. Bien entendu que tout ça, si on ne le regarde pas en face, on ne pourra pas avancer. C'est pourtant simple de dire que toutes ces saloperies n'ont plus d'intérêt aujourd'hui et qu'il faut penser les rapports humains sur d'autres bases. C'est quoi? C'est du machisme ou c'est de la paresse intellectuelle qui empêche les hommes de faire leur autocritique? Ça rime à quoi de tituber dans les rues en répétant « il ne faut pas faire d'amalgame ». Personne ne fait d'amalgame. Mais si personne ne veut regarder son histoire en face, on ne va pas s'en sortir. On dirait que de peur de vexer Pierre et Paul, il est devenu interdit de nommer les causes des haines qui persistent aujourd'hui. Tu peux publier ça? Et vous répondez « bien sûr que non, Marceline, vous le publiez ». Commentaire, parce que je crois, tout à l'heure on en parlait en off, juste avant de commencer, que c'est ce que le Nouvel Obs a pointé dans votre carnet.
Moi, mon principe, c'est de laisser parler plein de gens qui pensent pas forcément la même chose que moi. Il y a des jeunes femmes voilées qui donnent des cours de maths à mes enfants, que j'ai laissé parler longuement dans ce carnet, parce qu'il y a une divergence entre nous qui m'intéresse beaucoup. Mais en même temps, il y a un terrain d'entente. Qu'est-ce qu'elle explique, Marceline? Elle explique qu'on en dit trop sur la religion et pas assez sur le politique. Elle explique que les pays arabes ont été des dictatures pendant pratiquement 50 ans et que c'est ça qu'on paye aujourd'hui. On s'interroge sur Daesh. Qui structure et gouverne Daesh, c'est d'anciens généraux de Saddam Hussein. Donc, quand on a des régimes paternalistes et qui interdisent tout, et l'Empire ottoman en faisait partie, on a ensuite des citoyens dans les familles qui ont l'habitude de tout interdire. Et ça sert à rien de s'en prendre à Dieu. Il faut voir dans quelle structure évoluent les hommes et dire que des cadres nazis ont aidé des régimes arabes, bah, ça a été vrai en Syrie et on en paye les pots cassés aujourd'hui.
Didier Danax.
Oui, moi ça me fait penser, c'est des discussions que j'avais au moment de la guerre de Yougoslavie avec ce qui s'était passé en Bosnie-Herzégovine où on a des images de légions SS comme ça. Et donc là aussi, il y avait ce problème-là. Et en ex-Yougoslavie, il y avait une sorte d'inversion parce que c'était des gens qui venaient de mouvements communistes qui avaient reversé dans cette idéologie-là. Donc c'était à front renversé en même temps en Bosnie. Et donc on est obligé d'aller vraiment sur ce rapport à l'histoire pour essayer d'éclairer le présent.
Comme à tous nos invités, Johannes Farr, on vous a demandé de nous apporter un son qui vous a marqué. Et voici ce que vous avez choisi. Vous avez ravi Benoît Lagan.
Ulysse, Ulysse, au milieu de la galaxie, comme le feu, il traverse le temps.
Les dieux de l'Olympe, pour se venger d'Ulysse qui a vaincu le Cyclope, le condamnent à errer dans le cosmos. Ulysse, son fils Télémaque, Thémis et le petit robot Nono, à bord de l'Odysseus, cherchent le chemin de la Terre.
Nous les mini-pouces.
Alors qu'il joue avec Nono, Télémaque aperçoit un énorme engin métallique passant à proximité de l'Odysseus.
Va, Gès, conquérant du lointain, recherche ton père, illumine les chemins obscurs de l'univers.
Installez-vous à votre place, nous allons le poursuivre.
La totale, c'est Thomas Beau qui s'est amusé
au son montage.
Identification de ces sons et la raison pour laquelle vous les avez choisis, Johannes Farr.
J'ai demandé qu'on parle de Jean Chalopin, qui est un immense réalisateur de dessins animés. Et je suis ravi que vous ayez choisi Ulysse, parce que écoutez la gravité de ses paroles et l'insouciance avec laquelle c'est fabriqué. Moi, c'est la phrase qui m'a le plus marqué quand j'étais petit au château de Nice, où on nous emmenait à l'école maternelle. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. On revient toujours à Ulysse parce qu'on est paumé. Et j'adore quand la pop culture est à la fois aussi juste et aussi libre. C'était une autre France.
Le rendez-vous, la chronique.
Johannes Farr et Didier Danax, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, c'est la chronique Place de la Toile, très attendue par les internautes de Xavier Delaporte, qui est le rédacteur en chef de Rue 89, avec qui nous sommes partenaires.
Alors,
ce soir, ça va.
Vous ne vous lancez pas.
Si, okay. C'est à vous. Et au programme ce soir, la façon dont nous allons mourir.
Chaque nouvelle technologie a fourni au crime et donc à la fiction qui en fait le récit de nouvelles possibilités. Que l'on pense à la voiture, au train, au téléphone portable, à Internet ou même au drone. Et immédiatement nous viennent à l'esprit nombre de romans, de films qui en ont fait usage pour créer de nouvelles matrices, de nouvelles combinaisons ou nouveaux rebondissements. Alors amusons-nous ce soir à établir une petite liste de crimes que l'on pourrait commettre aujourd'hui ou dans un avenir très proche. Alors je vous prie d'avance de m'excuser si certains d'entre eux ont déjà été racontés quelque part, parce que la chair est gaie, heureusement, et je n'ai pas lu tous les livres, comme aurait dit Mallarmé, s'il avait connu YouPorn. L'Internet des objets est une mine sans fond de crimes possibles. Le fait que de plus en plus de nos objets usuels soient connectés au réseau rend possible toutes sortes de piratages à distance. Dans une série dont je tairai le nom pour ne pas la spoiler, un homme politique était tué parce qu'un ennemi prenait le contrôle de son pacemaker. Fiction, me direz-vous, il semblerait que non, et que certains modèles aient montré des failles de sécurité. Mais bon, accélérer la mort de quelqu'un qui est fragile peut passer pour un piètre défi. En revanche, provoquer l'accident d'une voiture sans même la toucher est plus intéressant. Or, les modèles les plus récents sont de plus en plus systématiquement équipés d'ordinateurs de bord, et ça n'est pas sans poser problème. Il y a quelques mois, des ingénieurs américains ont montré à des journalistes comment ils pouvaient, sans grande difficulté, prendre le contrôle d'un véhicule sorti d'usine, tout juste sorti d'usine, et par exemple, désactiver ses freins. Plus besoin donc d'aller trafiquer dans le capot comme on le voyait faire dans les films d'antan. Et on peut faire carrément beaucoup plus spectaculaire. Un avion, par exemple. Dernièrement, un hacker a été accusé d'avoir modifié très légèrement la trajectoire d'un avion à bord duquel il était installé, et il a concédé l'avoir fait une dizaine de fois auparavant, et il l'a fait depuis son siège, en branchant le câble Ethernet de son ordinateur portable à un boîtier qui est situé sous chaque siège, en pénétrant le système informatique de l'avion via l'écran qui est installé dans chaque fauteuil. C'est là un monde de possibilités qui s'ouvre, à condition bien sûr de tuer l'auteur du crime, mais ça ne sera pas une première. Là, on parle d'objets qui sont informatisés depuis longtemps. Mais imaginez ce qui sera possible de faire quand tous nos objets domestiques seront reliés au réseau. Non seulement le chauffage, l'électricité, l'actionnement des stores, des lumières, etc. Déjà, ça offre pas mal de possibilités. Pensez au chauffage ou à l'eau chaude, par exemple. On pourrait faire des trucs avec ça. Mais aussi, je donne cet exemple au hasard, un mixeur. Pas mal le coup du mixeur connecté, mixeur tueur. Ou alors, la course-poursuite avec un aspirateur rendu anthropophage par quelques lignes de code mal intentionnées. On serait ainsi dans une sorte de Walt Disney gore, où les objets, par le truchement d'un programmeur malveillant, se feraient des outils d'intention criminelle. L'arme du crime qui se déclenche toute seule, sans qu'on ait à la toucher, c'est quand même pas mal. Mais on peut imaginer des choses plus perverses. Par exemple... on était dans les trucs...
Là, on est dans la paranoïa, maintenant on est dans la perversion. Non,
par exemple, je rêve, à titre personnel, de reprogrammer un GPS pour faire en sorte que la personne entre sur une autoroute à contresens. J'avoue que j'y pense souvent quand moi-même j'utilise un GPS dans une voiture. Ou alors, si on est vraiment très dingue, on peut fabriquer un double numérique d'une personne qui correspond parfaitement en tout point à ce que les Américains considèrent comme un ennemi à éliminer. Et le jour où la cible part se balader, par exemple, au Pakistan ou au Yémen, paf, elle se prend une frappe de drone sur la tête. Ce qu'il y a de commun dans tout ça, c'est la possibilité de tuer à distance, sans contact physique, ni même visuel, avec là ou la personne qu'on veut éliminer. Mais il y a un inconvénient majeur, c'est la réduction du spectre des suspects. En gros, à ceux qui possèdent une compétence technique hors du commun. Or, l'ingénieur en informatique ou le programmeur est moins générateur de fantasmes que la brute poilue, la vieille empoisonneuse, le bourgeois élégant ou l'enfant fou. À moins que dans l'avenir, tous deviennent geeks, mais là, j'ose à peine y rêver.
Le rendez-vous.
Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et des arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom.
On va parler des lueurs, mais peut-être il y avait des commentaires suite à cette chronique.
Moi, j'ai eu une idée atroce, c'est qu'il paraît que dans 20 ans, on aura tous des yeux électroniques parce qu'ils seront plus performants. On pourra nous envoyer plein d'images, ça fait très très peur tout ça.
Ah ouais, vous n'avez pas pensé
à ça ?
Vous avez
fait peur.
Non, mais là, moi, je reste dans le présent, en fait, presque.
Didier Lanynx ?
Non, je vais changer.
Une usine à fiction ? Plateau nouvelles et nouveautés avec vous, donc Didier Lanynx, écrivain, figure du roman noir, auteur d'un nombre que l'on ne compte plus. On a essayé, on s'est trompé chaque fois, de romans, de nouvelles, mais aussi de scénarios, et ce depuis le milieu des années 80. Aujourd'hui, deux publications Novellas aux éditions du Cherche Midi. C'est la compilation de 11 longues nouvelles, et puis un livre caché dans la maison des fous, une centaine de pages aux éditions Bruno Doucet, qui est normalement un éditeur de poésie. Le roman se déroule, Benoît.
En 1943, et là on retrouve une fois encore votre goût pour les histoires dans l'histoire, et on y croise entre autres Denise Glaser, Madame Discorama, en résistante avant la télévision, et le poète Paul Éluard, qui viennent tous deux se cacher pendant la guerre dans un asile en Lozère. Le principe de cette collection, c'est d'ailleurs d'écrire une histoire qui met en scène un poète dans la grande histoire, et vous avez fait le choix de Paul Éluard, dont on entendait donc en ouverture de plateau un extrait du poème Liberté.
C'est l'écriture de ce poème justement qui va pousser Éluard à se cacher en Lozère, dans cette maison de fous. Alors, au-delà du lien géographique que vous avez avec Paul Éluard, puisque vous êtes natif comme lui de Saint-Denis, qu'aviez-vous envie de raconter de l'engagement du poète à ce moment-là, dit Lanynx ?
C'est un petit peu compliqué. Le problème de Paul Éluard, c'est véritablement qu'il est obligé de se cacher à l'hôpital de Saint-Alban. Et c'est la rencontre qu'il va faire qui va modifier son regard. Et cet hôpital est complètement dirigé par deux psychiatres d'avant-garde en pleine guerre en 1943-44. Et d'un seul coup, ce lieu de folie va devenir un lieu de création aussi bien de poésie et un lieu de création picturale. Il va y avoir toute une expérience aussi autour de la sculpture. Et ce qui m'a véritablement intéressé, c'est la manière dont des gens extrêmement différents vont arriver dans ce lieu.
Le livre est dédié à la mémoire de Georges Lanynx, votre grand-père, c'est ça ? Une explication ?
Non.
Ah, alors,
Georges Lanynx, c'est un oncle qui aurait pu se retrouver dans cet hôpital ou un autre pendant la guerre, et qui est resté dans la famille et qui a été sauvé de cette manière, puisque les gens savent assez peu que les hôpitaux psychiatriques pendant la guerre, un fou sur deux est mort de maladie ou de faim avec les directives sanitaires de Vichy.
Ce qu'on comprend, hein, c'est que l'enjeu de cette histoire, c'était de raconter qu'en pleine occupation, le refuge pour les poètes, c'était d'être sous la protection des fous. Qu'est-ce que cela dit justement de vous ?
Oui, non, comment le, c'est vraiment le refuge de l'écriture, oui, c'est comment, c'est très très compliqué comme, ce que vous me posez comme, comme question. Ça me renvoie véritablement à des gens que j'ai connus, à des gens autour de moi et à ce que vivent énormément de familles, c'est-à-dire de, comment, d'être avec des gens qui sont considérés comme des gens plus faibles, des gens anormaux. Et la seule, le seul soutien qu'ils trouvent dans, dans cette société depuis des dizaines et dizaines d'années, c'est le lien familial. Et c'est là que les choses se jouent. Et quand ils sont rejetés comme ça et qui sont mis derrière les grilles et derrière les murs de ce qui devrait être des asiles, c'est véritablement des tragédies qui se sont jouées pendant des dizaines et dizaines d'années. Et donc Paul-Éluard va tomber sur ces gens. C'est des gens qui sont dans l'abandon depuis toujours. Et là, ils vont bénéficier de l'humanité absolument extraordinaire de ces gens. Lucien Bonafé, le psychiatre, François Toscaïès, le psychiatre catalan, d'autres personnes, les sœurs qui étaient là, qui étaient des sœurs qui géraient les fous comme tout le monde les gérait, et d'un seul coup qui ont découvert véritablement l'humanité de ces gens abandonnés grâce à ces deux psychiatres. Donc c'était de parler de ça, c'est-à-dire que cet abandon n'est pas inéluctable, et il y a dans quelques endroits comme ça, il y a des gens d'une force absolument incroyable qui ont sauvé véritablement l'humanité à chaque fois.
Vous connaissez cette histoire de Paul-Éluard, réfugié? Non,
pas du tout. Je la trouve formidable. Ça rappelle presque le marquis de Sade qui s'était retrouvé lui aussi dans des circonstances semblables. C'est la folie nous fascine parce que on s'y retrouve de manière très concrète. On se dit tiens, on s'est soigné de ça parce qu'on a trouvé un moyen de communiquer. Voilà, ouais. Mais si on n'avait pas trouvé ce moyen-là, où est-ce qu'on serait?
Benoît.
Alors, on retrouve à côté de cette nouvelle publication un recueil de vos nouvelles. On peut lire ou relire donc des nouvelles qui étaient parues soit dans des ouvrages documentaires, je pense à Les gens du rail par exemple, qui était paru dans un ouvrage signé avec Georges Bartoli, Les gens du rail, et puis les textes issus de la collection Les petits polars du quotidien Le Monde, mais encore un texte paru dans la série noire Je tue il en 2003, et c'est votre dernier texte paru, je crois, dans la série noire de Gallimard, puisqu'ensuite vous allez être publié dans La Blanche. Comment vous expliquez ce transfert, justement, au début des années 2000, vous passez de la...
Mais ça faisait assez longtemps, hein, quand j'avais quitté une première fois la série noire en donnant un autre texte qui s'appelait « La mort n'oublie personne » et qui correspondait pas du tout à l'image de la série noire. Et ça aurait été un hiatus avec les lecteurs que de leur proposer ça sous la couverture inventée par Marcel Duhamel. Et donc j'avais demandé à passer dans une autre collection. Et là, je m'étais retrouvé chez De Noël. Et ensuite, je me sentais mal dans le carcan de Noël. Et il y a eu la publication dans la collection blanche. Mais c'est pas des choix directs de changer de collection comme ça. C'est pas une gestion de carrière. C'est qu'à un moment, j'ai évolué dans l'écriture. Et il y avait des thèmes qui avaient une lourdeur, une implication comme ça, qui d'un seul coup aurait été desservie par le fait d'être sous la marque Polar uniquement.
On pense à quel thème par exemple?
Récemment, j'avais publié un texte qui était une sorte de roman autour de la figure de Misak Manouchian. On parlait de l'Arménie tout à l'heure. Et donc, j'avais envie de dire dans ce livre sur Misak Manouchian qu'on le regardait toujours du côté du martyr, du côté de la mort, alors que tout ce qu'il a écrit, c'est un poète, et il a pris les armes pour défendre la poésie, et tout ce qu'il dit, c'est chaque fois, c'est la beauté du monde, c'est les roses, il donne la liberté à sa femme, il lui dit de se marier, d'avoir un enfant, il dit qu'il meurt sans haine pour le peuple allemand alors qu'il va être fusillé 10 minutes après. Donc c'est quelqu'un qui se place du côté de la vie et de l'espoir. Donc je voulais écrire un roman où je parler de Manouchian du côté de
La Blanche.
Voilà.
Vous avez commencé par écrire des nouvelles qui fictionnalisaient ce que vous viviez au niveau professionnel, puisqu'à l'époque, vous étiez ouvrier dans un atelier d'imprimerie, et vous portez un regard très critique sur ces premiers essais, estimant que vous étiez planté lamentablement. Qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné à l'époque? Non, c'est le début d'écriture.
C'est le premier roman, tout simplement, parce que j'écris ce premier roman sous l'influence de Manchette, de Vautrin, de Fajardi, qui avait révolutionné le roman policier dans les années, début des années 70. Il y a la science-fiction, la bande dessinée et la série noire, qui d'un seul coup vivent au rythme de la jeunesse. Et donc j'ai essayé de faire un roman comme ça, et je sortais de l'atelier d'usine, et je me suis aperçu qu'à chaque ligne, comme ça, il y avait 10 questions et j'étais en mesure de répondre à une peut-être de ces questions. Et donc je suis allé au bout du roman avec 90% de questions non résolues. Et quand le livre a été publié 4 ans après, et quand je l'ai lu 4 ans après, d'un seul coup, il y avait une partie des questions qui étaient résolues et donc le livre me paraissait extrêmement faible. Ce qui fait que je l'ai totalement réécrit par la suite. Donc il y a ça, l'écriture, c'est comment il y avait véritablement cette envie, il y avait cette ce battement comme ça des textes de manchette, et puis après on prend la mesure du défi qu'on se lance, quoi.
Vous avez dessiné sous influence aussi de quelqu'un?
Oh oui, toujours. Ouais,
toujours.
Toujours. Je crois qu'il y a toujours Pratt, il y a toujours Will Eisner, il y a Sempé, il y a Quentin Blake, il y a Moebius. Il n'y a pas un seul dessin que je fasse. Pratt disait, on oublie les artistes 20 ou 30 ans après leur mort, mais par contre, il y a une chaîne ininterrompue depuis les hommes des cavernes et on se transmet le ballon un petit peu. Moi, je passe ma vie à rendre hommage aux autres artistes. En fait, j'aime rencontrer des artistes. Ça m'intéresse plus que mon travail à moi.
Benoît.
Didier Denex, en 97, vous publiez une série d'entretiens intitulée « Écrire en contre ». Qu'est-ce que ce titre vient dire finalement de votre démarche d'écrivain à l'époque? Est-ce que, du coup, aujourd'hui, vous validez toujours ce...
Oui, il y avait véritablement ça, c'est-à-dire le fait comment d'essayer d'écrire en dehors de comment des lumières de l'université, des lumières de la critique, du contrôle et ainsi de suite. Donc se placer toujours en marge comme ça et de travailler sur comment sur tous les lieux communs qui sont en formation comme ça et de les contredire. Donc ça a toujours été ça. Moi j'ai toujours conçu l'écriture comme ça comme un moyen de réponse, c'est-à-dire un monde totalement incompréhensible, des agressions pratiquement quotidiennes par toutes les informations qui nous viennent comme ça, et le seul espace comme ça de réponse à cette violence du monde, ça a été pour moi le roman noir. Donc j'ai quitté la série noire, mais le roman noir reste toujours un point d'ancrage.
Jacques Tardy a illustré Le Dernier d'Air. Il s'est également emparé de l'univers de Manchette, hein, Le Petit Bleu de la Côte Ouest, ou Odingo au chapeau, La Position du tireur couché. Quel regard vous portez sur la façon qu'il a eu de se réapproprier graphiquement son univers, puisque vous parliez de Manchette tout à l'heure?
Oui, c'est... comment ? Très sincèrement, dans tout ce que fait Tardy, ce que je préfère vraiment, c'est tout le travail qu'il fait sur lui-même, ce qu'il est en train de réaliser sur l'histoire de son père. Il m'en avait parlé 10 fois comme ça. C'est là où véritablement il y a une émotion absolument considérable de la part de Tardy. Et j'ai l'impression qu'il a il a passé une partie de sa vie à chercher un petit peu toutes ces choses-là. Donc, en s'emparant d'univers d'écrivains, que ce soit Pena, que ce soit Manchette, que ce soit Léo Mallet, que ce soit Tardy, que ce soit Céline, et ensuite il y a véritablement l'œuvre de sa vie, et actuellement il y a eu sur son grand-père tout ce qu'il a fait sur la guerre de 14, et aujourd'hui d'affronter les fantômes de son père. Il affronte véritablement il se met complètement dans la dureté de la vie de son père, et c'est en même temps admirable et en même temps effroyable, quoi.
Lensfar,
ouais. Ouais, y a un album de Tardy qui est un peu oublié et que j'avais adoré. Il reprenait les Léo Mallet et à un moment, il en a écrit un. Il a inventé un Nestor Burma, je crois que c'était une gueule de bois en plomb, qui a jamais été écrit par Léo Mallet, qui est 100% écrit par Tardy et qui était formidable parce que c'était du pulp made in France et auteur, texte et dessin Tardy. Moi, j'avais adoré.
Benoît.
Alors Didier Denax, comme pour Lensfar, on vous a demandé un son. Voici ce que vous avez choisi.
La première fois, c'était une espèce de radeau gonflable d'une douzaine de mètres de long qui paraissait surchargé, qui était tout coloré sur la surface. À la jumelle, on a regardé, on a vu qu'il y avait plein de monde. Enfin, c'était plein à craquer, vous voyez, avec un moteur hors bord à l'arrière. Et voilà, on sait qu'il s'agit de migrants. Donc, je me suis approché avec mon navire et j'ai mis mon propre zodiac à l'eau pour demander à certains de mes officiers égyptiens d'aller interroger ces gens pour voir s'ils avaient besoin d'aide ou de secours. Ils disent qu'ils n'ont plus d'eau, qu'ils n'ont plus de vivres, qu'il leur reste 20 litres d'essence. Donc, ils n'arriveront jamais à Lampedusa. On voit tous dans les yeux les uns des autres qu'on a envie de les sauver. On peut pas les laisser tels qu'ils sont. Donc, on y va, on les prend.
Identification de ce son, Didier Denax ?
C'est la chose la plus belle que j'ai entendue depuis des années. C'est un pêcheur breton qui a arrêté de pêcher des poissons et qui a pêché des hommes. Donc il a sauvé un millier de personnes au large de la Sicile. Et comment j'ai l'impression que on devait chercher un candidat pour le prix Nobel de la paix, c'est ce monsieur-là, quoi.
Le rendez-vous, la session.
Didier Lenin, Johann Sfar, on va se quitter tout de suite en musique. Une session électropop.
Une session électropop anglaise avec Cause Culture, de son vrai nom James Greenwood. Il est programmé ce week-end au festival Wheel of Green, au parc de Bagatelle à Paris. 4e édition pour ce festival à la programmation bio et éclectique. Ça va de Christine and the Queen au DJ Nicolas Jarre, en passant par Cause Culture. Cause Culture, un nom qu'il a choisi pour dénoncer une culture de plus en plus désincarnée et vidée de son essence, une culture fantôme. On est là face à un jeune londonien de 24 ans qui a commencé la musique à la clarinette et au saxo, et qui s'inspire de Miles Davis, de Depeche Mode, de David Bowie ou encore de John Coltrane. Ce soir, il est venu avec son synthétiseur Korg des années 80.
Il est même caché derrière,
pour son
accroupi.
Titre glace. En direct du studio 108, Ghost Culture, here we go.
No surprise, you win. You don't have to try. And who am I to chase changing I
Merci.
C'était Ghost Culture, le titre Glace est extrait de son premier album Ghost Culture, sorti sous le label Fantasy. Il sera en concert samedi soir au festival Wilhelm Green au parc de Bagatelle à Paris et le 12 juin à Marseille dans le cadre du festival L'Édition.
Comme je pouvais pas appeler Astérix, il a fallu De Gaulle.
Et il a pris les armes pour défendre la poésie.
Ah oui, c'est certain. Merci à vous. Tous nos invités. Johann Sfar, le 10e tome apparu aux éditions Delcourt et Je l'appelle Monsieur Bonnard, c'est aux éditions Azan. Didier Deninx, Novelas, aux éditions du Cherche Midi et Caché dans la Maison des Fous, aux éditions Bruno Doucet. La désannonce, Elsa ?
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagan, Aïssatou Hendoy et Elsa Béranger, journal de la culture Zoé Sfès, chronique Xavier Delaporte, à la prise de son Bruno Gagnard-Fontani et Jacques Hubert et à la réalisation Thomas Beau.
Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain ?
Pourquoi des maisons de 10 à 15 mètres n'ont-elles à Honfleur que 3 à 5 mètres de large? Pourquoi, dans une grande partie de la France, chacun habite une maison personnelle? Pourquoi ailleurs a-t-on toujours bâti des immeubles collectifs? Qui saurait le dire?
Demain, une émission archi-peinture avec Jean-Louis Cohen et Shirley Jaffé. Il est 19h54. Vous êtes sur France Culture, c'est bien. Mais tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie
française.
Alors bonne soirée à tous et à demain.